Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux nous donner les motivations du livre? Pourquoi tu as raconté l'histoire de ta vie et comment on choisit ce qu'il y aura dedans?
Pourquoi j'ai raconté? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait toute une génération qui avait conduit des actions et qu'il y avait une nouvelle génération qui ne savait pas ce qui s'était passé et surtout qui était demandeuse de comprendre ce qui s'était passé. Je fais régulièrement des informations civiques et à partir de 1995, les manifs de 1995, j'ai vu revenir dans les formations des jeunes, pas très jeunes, mais de 30, 35 ans, qui s'étaient mobilisés à l'occasion des manifs et qui venaient pour réussir à comprendre quels étaient les enjeux. Et je crois qu'il y avait ce souci de dire, faut que tu fasses connaître pas seulement ce qui s'est fait, mais la démarche qui a permis que ça se fasse. Je crois que j'avais ça comme souci en pensant à la génération d'après.
Et donc, tu as choisi des moments qui, pour toi, illustraient le mieux cette période?
Ce que j'ai choisi, c'était, moi, je me suis investi dans l'éducation populaire toute ma vie. Toute ma vie, depuis, j'ai commencé à l'âge où j'avais 15-16 ans. Et je suis toujours engagé par rapport à l'éducation populaire. C'est-à-dire que le questionnement que je voulais faire apparaître, c'était, mais comment ça se fait que tu as investi là-dessus? Premier aspect du livre, c'est de la prise de conscience que la culture du milieu familial était inadaptée à l'école et que la culture de l'école était inadaptée dans mon milieu familial. Je me baladais de l'un à l'autre en n'étant jamais satisfait, ni à l'école, ni à la famille, et ça. Et ça a été source de difficultés, d'autant plus que j'avais, étant dyslexique, des difficultés scolaires. C'est-à-dire que je ne pouvais pas passer par-dessus. Donc ça a été source de tension. Et je crois que quand j'ai compris comment s'était organisée l'école, comment était organisée la société et les conflits de culture qui existaient, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose qui me permettait d'avoir prise sur ma vie. Et donc c'était ça que je voulais faire connaître. Et après, avec les engagements que j'ai pu prendre, ça a énormément bougé, puisque je commence dans les années 70 et je finis dans les années 2000. Donc on a un parcours sur 30-40 ans. Et l'éducation populaire va prendre des formes très différentes, la société va prendre des formes très différentes. Et j'ai vécu de l'intérieur tout ce processus, et ça me paraissait intéressant d'en rendre compte.
Les silences et les doutes de mon père engagés dans la lutte ont été pour moi un enseignement. Ils m'ont montré une voie, un modèle pour aller dans la vie, laisser la place au doute et avancer en cherchant son chemin. Avancer au jour le jour, même lorsque l'on ne sait pas où l'on va, est un moyen de conduire sa vie. Il m'a appris que l'avenir n'est pas écrit d'avance, que la vie se construit en marchant.
Donc c'est plutôt un livre intergénérationnel, pas un livre qui s'adresse à des gens qui auraient vécu comme toi la même expérience et qui pourraient se la remémorer, mais c'est plutôt pour renseigner des nouvelles générations.
Une fois que tu as fait le livre, c'est les gens qui s'en saisissent. Et effectivement, il va y avoir, parmi les gens qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours, des gens de ma génération qui ont fait référence à eux, de dire, ah ben oui, j'ai connu ça et tu restitues quelque chose dans lequel je me retrouve. Et on a aussi des nouvelles générations qui se saisissent du livre plutôt à dire, ah ben oui, il y avait ça. Et ça nous permet de comprendre maintenant.
Au fond de moi, je pense, il ne nous aime pas parce qu'on n'est pas comme lui. Aujourd'hui, je sais que ce jour-là, j'ai été humiliée. J'en ai gardé de la colère et ai développé une attention sensible aux humiliations sociales. L'accent nous rattache à une famille, un quartier, un terroir, un milieu. Premier élément de la construction sociale, il nous arrive dès le ventre maternel. nous est constitutif. Juger l'accent d'un enfant, c'est induire un déterminisme social. Porter un jugement négatif sur cet accent, c'est condamner ses origines familiales, son terroir, son milieu. C'est condamner l'enfant dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il est.
Tu parles de choc des cultures entre l'école et la famille, de la pression sociale qu'exerce la culture pour sélectionner les futures élites. Tu parles aussi de combat culturel, tu parles de culture émancipatrice. On peut se demander comment ce qu'on appelle culture peut être des choses aussi opposées.
Quand je parle de culture, au sens où je l'entends, la culture de quelqu'un, c'est ce dont il dispose pour comprendre le monde dans lequel il vit et de pouvoir agir dessus. C'est ça la culture. Et il n'y a pas une manière de comprendre le monde pour agir dessus. Il y en a plusieurs. Et selon l'endroit, la place dans la société qu'on a, c'est pas le même modèle culturel qui nous sera le plus efficace. Donc c'est en ce sens-là que j'entends qu'il y a des cultures, parce que les différents positionnements qu'on a dans la société font que on n'a pas les mêmes intérêts à défendre. Et donc on n'a pas besoin de s'y prendre de la même manière.
Ce combat culturel dont tu parles, est-ce que c'est un combat contre l'uniformisation culturelle ?
Pour moi, le combat culturel, il est émancipateur. Je m'émancipe, c'est-à-dire je prends du recul sur le conditionnement que j'ai pu avoir, quel que soit mon milieu social. J'ai été construit, j'ai été conditionné au départ, et ce n'est pas possible de faire autrement. Et il y a nécessité que ce conditionnement, j'en prenne conscience, et pour savoir qu'est-ce que j'entends faire de ma vie, et comment j'entends agir sur le monde, avoir un certain pouvoir, et ne pas subir ce que d'autres ont pensé pour moi ou veulent me faire passer.
Un autre thème très présent dans le livre, c'est la formation, puisque tu étais formateur professionnel. Donc tu évoques beaucoup ton parcours de formateur. Quel sens ça a de le partager dans un livre ?
La formation, c'est une des manières de permettre ce travail d'émancipation culturelle. Pour pouvoir m'émanciper de mon conditionnement, il faut que je réussisse à comprendre quelle était la forme qui m'a été donnée. Dans la formation, il y a l'idée de forme. On m'a mis une forme. J'ai été conditionné par ça. Cette forme, qu'est-ce que j'en fais ? Je la garde, je la fais bouger, je me forme ou je subis la formation, le formatage qu'on m'a donné. Et ça, ça passe par du travail de formation. De formation n'étant pas un enseignement, la formation. Je ne conçois pas comme je viens vous apporter la bonne forme. Non, je viens travailler avec vous quelle a été la forme de votre conditionnement et quelle forme vous voulez vous donner. C'est ça la formation.
Comment le livre peut-il également s'inscrire dans une démarche d'éducation populaire ?
Quand tu me posais la question, je pensais ce que je suis en train de, ce que j'ai développé au niveau théorique, ça paraît relativement compliqué. Par contre, le livre, tel que lui il est formulé, c'est ben voilà mon parcours. C'est des expériences de vie. Et l'expérience de quelqu'un donne un éclairage vivant de ce qui s'est joué. En même temps, mon livre, ce n'est pas seulement un livre théorique sur l'éducation populaire. C'est mon angle d'approche de ma vie. Mais on va y retrouver ce que toute vie d'homme a. À la fois les difficultés qu'il a pu vivre, à la fois ses échecs, ses réussites. Et donc, ça donne corps à quelque chose, à une approche de la culture, mais vivant à travers le parcours d'un individu.
Le 21 avril 2002, le verdict des élections tombe sévère. Le Pen obtient presque 20% des voix au premier tour des présidentielles. Il est devant Jospin, le leader socialiste. Surprise générale, gifle en pleine figure, coup de poing. Je suis furieux, furieux contre la société, contre les autres, contre moi. Colère de l'impuissance, une colère plus forte que le désespoir. Nous avons tout faux,
Je sentais bien que nous, acteurs de l'éducation populaire, étions dans une ornière. Parfois même, je craignais que nous soyons dans l'impossibilité d'en sortir. Et aujourd'hui, le résultat des élections confirme mes intuitions. Nous sommes sur une fausse piste. L'absence, pendant 20 ans, d'une véritable éducation à la démocratie, d'un véritable éveil politique, a favorisé la montée de l'extrême droite.
Sur la question de la transmission, de savoir-faire, d'expériences vécues, comment ce livre pourrait amener d'autres personnes à d'autres formes, à d'autres niveaux de conscience? Qu'est-ce qui doit être transmis?
Soi-même, on pense le livre et puis on se met à l'écrire. Et le livre, après, il a sa propre vie. Les gens qui vont lire le livre, ils vont se l'approprier d'une manière ou d'une autre, en fonction de leurs propres besoins à ce moment-là. Je fais des animations autour du livre et je propose de parler sur les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui les a frappés. Et c'est très très intéressant de s'apercevoir que d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre, ils ont lu le même livre et on a l'impression quand ils parlent, qui parlent de livres différents, parce qu'ils insistent sur un aspect, ils insistent sur un autre, c'est-à-dire c'est le lecteur qui se saisit du livre, et c'est plus l'auteur qui impose son approche. Il donne quelque chose qui permet au lecteur de s'en saisir et de se nourrir en fonction de ce qu'il a besoin, ou de dire « c'est inadapté pour moi, je le laisse tomber ». Tout ce qui est le plus légitime par rapport à un livre.
Une abeille, lorsqu'elle est agressée, pique et meurt. Si les abeilles arrêtaient de piquer pour ne pas mourir, leur race survivrait-elle? Qu'est-ce qui conduit des humains à refuser la résignation? Leur sentiment d'indignation est-il le fruit d'une culture, de l'expérience rationnelle? Le constat qu'à plusieurs, il est possible d'influer sur les cours de choses, ou simplement un réflexe de survie du corps social?
Écrire un livre pour toi qui est dyslexique, qui a plutôt mal vécu la période scolaire, qui s'est instruit seul avec beaucoup de volonté, ça a été quel genre de projet? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du défi, de la revanche? Ou est-ce que, j'en reviens à cette question de la transmission, est-ce que c'était là l'unique but de l'écriture?
Incontestablement, je pense que dans le fait de réussir à écrire un livre, le faire publier, de trouver une maison d'édition qui dise que cet ouvrage a suffisamment de valeur, il y avait un côté défi. Et en même temps, ce livre est né aussi d'un travail que j'ai fait en atelier d'écriture, c'est-à-dire apprendre à laisser venir de soi, à travers son écriture, ce qui est fondamental. Et il n'y aurait pas eu le travail d'atelier d'écriture. Si j'avais fait quelque chose, j'aurais plutôt fait un manuel sur l'éducation populaire. Tandis que là, ça n'a rien du manuel. C'est laisser venir qu'est-ce qui était le plus important à travers sa propre histoire, pour que les gens puissent s'en saisir et en faire ce qu'ils en veulent et s'en nourrir comme en fonction de leurs propres besoins.
Écrire sa biographie, est-ce que ça sert à s'éviter des regrets?
Non, moi je ne le perçois pas comme éviter les regrets. Écrire pour moi, c'était aussi prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé, restituer aux autres, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je le comprends, et j'espère que ça vous servira. Mais je ne pense pas que ce soit lié au regret.
Il est de beaux oiseaux qui éclosent dans la tourmente. Et la lourdeur des marécages qu'ils ont dû traverser dès leur première aurore leur colle aux plumes infiniment. Mais ils s'envolent. Et sous le pli écorché de leurs ailes, à la source de leurs blessures, une sève invisible, comme un surplus de vie, les pousse et les nourrit, et ils s'envolent, haut, plus haut que les autres oiseaux, pour échapper peut-être à cet ancien marais qui les suit de sa brume. Et ils s'envolent pour mieux voir les déserts et les fleuves du monde. Trouver d'autres lueurs, d'autres rives fécondes. Oui, il s'envole. Peut-être cherche-t-il, dans un carré de bleu là-bas, dans le lointain, une longue caresse qui lisserait enfin jusqu'à l'apaisement le plumage fébrile. Peut-être cherche-t-il dans la folie du vent une île de soleil qui saurait assécher les larmes qui s'enfin perdent à leurs paupières. Peut-être cherche-t-il un seul vrai chant d'amour qui leur permette d'être ce qu'ils sont et de vivre.